À Madame Séchard fils, place du Mûrier, Angoulême. Paris, septembre 1821. Quelques jours après, voici ce que Lucien écrivit à sa sœur. Ma chère Ève, les sœurs ont le triste privilège d'épouser plus de chagrin que de joie en partageant l'existence de frères voués à l'art. Et je commence à craindre de devenir bien à charge. N'ai-je pas abusé déjà de vous tous qui vous êtes sacrifiés pour moi? Ce souvenir de mon passé, si rempli par les joies de la famille, m'a soutenu contre la solitude de mon présent. Avec quelle rapidité d'aigle, revenant à son nid, n'ai-je pas traversé la distance qui nous sépare pour me trouver dans une sphère d'affection vraie, après avoir éprouvé les premières misères et les premières déceptions du monde parisien? Vos lumières ont-elles pétillé? Les tisons de votre foyer ont-ils roulé? Avez-vous entendu les bruissements dans vos oreilles? Ma mère a-t-elle dit « Lucien pense à nous ?» David a-t-il répondu « Il se débat avec les hommes et les choses. » Mon Ève, je n'écris cette lettre qu'à toi seule. À toi seule, j'oserai confier le bien et le mal qui m'adviendront en rougissant de l'un et de l'autre, car ici le bien est aussi rare que devrait l'être le mal. Tu vas apprendre beaucoup de choses en peu de mots. Madame de Bargeton a eu honte de moi, marronnier, congédié. Répudié le 9e jour de mon arrivée. En me voyant, elle a détourné la tête, et moi, pour la suivre dans le monde où elle voulait me lancer, j'avais dépensé 1 760 francs sur les 2 000 emportés d'Angoulême, et si péniblement trouvés. À quoi diras-tu, ma pauvre sœur? Paris est un étrange gouffre. On y trouve à dîner pour 18 sous, et le plus simple dîner d'un restaurant élégant coûte 50 francs. Il y a des gilets et des pantalons à 4 francs et 40 sous. Les tailleurs à la mode ne vous les font pas à moins de 100 francs. On donne un sou pour passer les ruisseaux des rues quand il pleut. Enfin, la moindre course en voiture vaut 32 sous. Après avoir habité le beau quartier, je suis aujourd'hui hôtel de Cluny, rue de Cluny, dans l'une des plus pauvres et des plus sombres petites rues de Paris, serrée entre 3 églises et les vieux bâtiments de la Sorbonne. J'occupe une chambre garnie au 4e étage de cet hôtel, et, quoique bien sale et dénuée, je la paye encore 15 francs par mois. Je déjeune d'un petit pain de 2 sous et d'un sou de lait, mais je dîne très bien pour 22 sous au restaurant d'un nommé Flicoteau, lequel est situé sur la place même de la Sorbonne. Jusqu'à l'hiver, ma dépense n'excédera pas 60 francs par mois, tout compris, du moins je l'espère. Ainsi, mes 240 francs suffiront aux 4 premiers mois. D'ici là, j'aurai sans doute vendu l'archer de Charles IX et les marguerites. N'ayez donc aucune inquiétude à mon sujet. Si le présent est froid, nu, mesquin, l'avenir est bleu, riche et splendide. La plupart des grands hommes ont éprouvé les vicissitudes qui m'affectent sans m'accabler. Plaute, un grand poète comique, a été garçon de moulin. Machiavel écrivait Le Prince le soir, après avoir été confondu parmi les ouvriers pendant la journée. Enfin, le grand Cervantes, qui avait perdu le bras à la bataille de Lépante en contribuant au gain de cette fameuse journée, appelé vieux et ignoble manchot par les écrivailleurs de son temps, mit, faute de libraire, 10 ans d'intervalle entre la première et la seconde partie de son sublime Don Quichotte. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Les chagrins et la misère ne peuvent atteindre que les talents inconnus. Mais quand ils se sont fait jour, les écrivains deviennent riches, et je serai riche. Je vis d'ailleurs par la pensée. Je passe la moitié de la journée à la bibliothèque Sainte-Geneviève, où j'acquiers l'instruction qui me manque et sans laquelle je n'irai pas loin. Aujourd'hui, je me trouve donc presque heureux. En quelques jours, je me suis conformé joyeusement à ma position. Je me livre dès le jour à un travail que j'aime. La vie matérielle est assurée. Je médite beaucoup, j'étudie. Je ne vois pas où je puis être maintenant blessé, après avoir renoncé au monde où ma vanité pouvait souffrir à tout moment. Les hommes illustres d'une époque sont tenus de vivre à l'écart. Ne sont-ils pas les oiseaux de la forêt? Ils chantent, ils charment la nature, et nul ne doit les apercevoir. Ainsi ferai-je, si tant est que je puisse réaliser les plans ambitieux de mon esprit. Je ne regrette pas Madame de Bargeton. Une femme qui se conduit ainsi ne mérite pas un souvenir. Je ne regrette pas non plus d'avoir quitté Angoulême. Cette femme avait raison de me jeter dans Paris en m'y abandonnant à mes propres forces. Ce pays est celui des écrivains, des penseurs, des poètes. Là seulement se cultive la gloire, et je connais les belles récoltes qu'elle produit aujourd'hui. Là seulement les écrivains peuvent trouver, dans les musées et dans les collections, les vivantes œuvres des génies du temps passé qui réchauffent les imaginations et les stimulent. Là seulement d'immenses bibliothèques sans cesse ouvertes offrent à l'esprit les renseignements et une pâture. Enfin, à Paris, il y a dans l'air et dans les moindres détails un esprit qui se respire et s'empreint dans les créations littéraires. On apprend plus de choses en conversant au café, au théâtre pendant une demi-heure qu'en province en 10 ans. Ici, vraiment, tout est spectacle, comparaison et instruction. Un excessif bon marché, une cherté excessive, voilà Paris où toute abeille rencontre son alvéole, où toute âme s'assimile ce qui lui est propre. Si donc je souffre en ce moment, je ne me repens de rien. Au contraire, un bel avenir se déploie et réjouit mon cœur un moment endolori. Adieu, ma chère sœur. Ne t'attends pas à recevoir régulièrement mes lettres. Une des particularités de Paris est qu'on ne sait réellement pas comment le temps passe. La vie y est d'une effrayante rapidité. J'embrasse ma mère, David, et toi, plus tendrement que jamais. Adieu donc. Ton frère qui t'aime, Lucien.